Les deux textes liturgiques de ce troisième dimanche de l'Avent. L'épître est tirée de saint Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je le répète, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Lecture de saint Paul aux Philippiens. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je vous le répète, réjouissez-vous, que votre modération soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem à Jean des prêtres et lévites pour lui demander « Qui êtes-vous ?» Il déclara « Ne le nia point, il déclara « Je ne suis point le Christ. » Et lui demandèrent « Quoi donc ? Êtes-vous Élie ?» Il dit « Je ne le suis point. » « Êtes-vous le prophète ?» Il répondit « Non. » « Qui êtes-vous donc ? » lui dirent-ils, « afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dites-vous de vous-même ? » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » « Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Or ceux qu'on lui avait envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptisez-vous si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jésus leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au lieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il doit venir après moi, lui qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc nous aurons donc aujourd'hui la première communion de Lilou Armand. Donc priez bien pour elle. C'est très important dans une église. Un malheur, encore une fois. Malheur aux chapelles sans enfants. J'ai eu une fois un problème comme ça en Angleterre. Il y avait des personnes âgées qui me disaient, « Monsieur l'abbé, c'est magnifique dans notre chapelle. Il n'y a pas un enfant. On peut vraiment prier en paix. » Et j'aurais dit, « Malheur à vous. Votre chapelle est morte. » Je n'étais pas content. Donc, remercions le bon Dieu si nous avons des enfants, même si ce n'est pas toujours très facile avec le temps très froid qu'on a en ce moment. Bon, pour ceux qui viennent à la messe en semaine, messe tous les jours, à 8h à Padiès. Attention, samedi, donc la messe aura lieu ici à 10h, puisque ce sera le jour où je vais commencer ces petites réunions pour une espèce de tiers ordre, pour donner un petit coup de feu à ceux qui veulent qu'on voit un petit peu plus sur plan spirituel. Monsieur, vous êtes tous invités pour ceux qui peuvent venir. On commencera à 9h30. Donc à 9h30, je donnerai petite méditation ici à la chapelle. Ensuite, on aura la messe ici. Donc, toutes les messes en semaine à Padiès, sauf samedi. Samedi ici à 10h. Messe ici. Ensuite, j'aurai une petite conférence spirituelle après le café. On aura un chapelet ensemble, une petite conférence doctrinale. Et on finira par un repas tiré du sac. Bien sûr, vous êtes tous invités. Si vous venez, prévenez simplement Laura Deschard pour qu'on puisse s'organiser au niveau du repas. Attention, cette semaine, vous avez les quatre temps, donc mercredi, vendredi et samedi, le 18, le 20 et le 21. Ce sont les quatre temps, donc jeûne et abstinence. Jeûne, c'est-à-dire un repas par jour, pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, tolèrent une petite chose le matin et le soir, et abstinence, pas de viande, pour tous ceux qui ont l'âge de raison. Je vous dis aussi tout de suite, avant que j'oublie, le 23, c'est-à-dire l'avant-veille de Noël, ce sera le lundi 23, c'est aussi un jour de jeûne et d'abstinence, puisque le pape Pie XII a changé le jour de jeûne et d'abstinence de la vigile du 24 au 23 pour permettre aux mères de famille de préparer le repas de Noël. C'est la tradition. Donc il y aura 4 jours de jeûne et d'abstinence dans ces jours qui viennent, 18, 20, 21 et 23. Mercredi prochain, nous aurons le cours sur les actes du magistère, mercredi 18 à 19h. Attention, le jour de Noël, évidemment, il n'y aura pas de cours. J'annule le cours sur les actes du magistère le 25 décembre. Pour Noël, donc bien sûr, Noël est une fête d'obligation. Il y aura trois messes le 25 décembre, donc minuit, 10h 18 heures le soir. Après la fête de Noël, après la messe de Noël de minuit, nous aurons un petit réveillon en bas dans la salle de la paroisse. Donc attention, à cause de ces réveillons, il n'y aura donc pas de repas paroissial ce mois de décembre. Le prochain aura lieu le dernier dimanche du mois de janvier, le 26 janvier. Au niveau des retraites, donc les 6 premières retraites sont pleines. J'ai encore quelques places, je crois 3 places pour les 2 retraites d'octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, quand on a commencé ce temps d'avant, Saint Paul nous a donné un premier conseil. Réveillons-nous. Aujourd'hui, il nous donne un deuxième conseil complètement différent. Réjouissez-vous. Gaudete Domino Semper Iterum Dico, Gaudete. Je vous l'ai dit, réveillez-vous, je vous le répète, réveillez-vous. Gaudete Domino Semper, réjouissons-nous dans le Seigneur, tous, réjouissons-nous, je vous le dis de nouveau, il répète 2 fois, réjouissons-nous. La joie et la paix font partie de la vie du chrétien. Mais attention, cette joie et cette paix, c'est une joie et une paix pour nous donner des forces pour monter au calvaire. N'oubliez pas qu'il y a 3 étapes dans la vie du catholique. Première étape, c'est la nativité, la naissance. Deuxième étape, le calvaire. Troisième étape, le ciel. Et il y a les petits malins qui voudraient prendre un raccourci et aller directement de la grotte de Bethléem au ciel. Pas possible. Il nous faut passer impérativement par le calvaire. Et donc, il ne faut pas vouloir séparer les deux choses. Et ça, c'est le crime du monde moderne. C'est entre autres le crime de l'Église de Vatican II. C'est clair et net. On supprime la souffrance. On supprime la voie purgative. On supprime la voie de purification. On ne peut pas aller au ciel sans passer par le calvaire. Et les pères de l'Église ont une manière magnifique de l'expliquer. Ils disent de même que la très sainte Vierge Marie a déposé son fils nouveau-né la nuit de Noël sur le bois de la crèche. De même, 33 ans plus tard, elle déposera le même corps, elle recevra le même corps de son fils. Elle déposera le même corps de son fils sur le bois de la croix. Et puis ils expliquent encore, de même que la très sainte Vierge Marie a enveloppé son fils nouveau-né le jour de Noël dans les langes qu'elle avait préparées, de la même façon, 33 ans plus tard, elle recevra le corps exsangue de son fils et le recevra dans le linceul pour l'enterrer. Ça montre bien, vous voyez, qu'il y a cette union absolument impérative entre l'incarnation et la rédemption. On ne se rappelle que de la joie de Noël et on oublie pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est né. Noël, c'est quoi? Noël, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'unit à la nature humaine. Alors on se réjouit évidemment de cette naissance dans le foie de la grotte de Bethléem, mais on oublie trop souvent pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre humanité. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre humanité pour rendre possible le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption est un mystère qui va s'effectuer par la croix, c'est-à-dire par la mort du Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, ne pouvait pas mourir en tant que Dieu, c'est impossible, puisque Dieu est éternel. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va mourir en tant qu'homme. Donc, derrière la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la croix qui est là. Alors, il faut méditer ces choses-là. Si vous allez un jour à Rome, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, à côté de la tombe de Saint-Jérôme, il y a le bois de la crèche qui a été conservé. C'est très émouvant. Le bois de la crèche sur lequel la très sainte Vierge Marie a déposé son divin fils est conservé à Sainte-Marie-Majeure. Bien, ce bois de la crèche représente le bois de la croix. Et malheur à nous si nous voulons supprimer justement cette union entre l'incarnation et la rédemption. La grande différence qui existe entre l'Église protestante et l'Église catholique, c'est ça. L'Église protestante, c'est l'Église catholique moins la croix, moins le mystère de la rédemption, moins l'essentiel. Et c'est un peu la même chose avec l'Église de Vatican II. On supprime complètement la croix, parce qu'évidemment la croix est rugueuse, la croix est lourde, et on ne veut pas la porter. Et c'est pour cela que l'Église, dans sa sagesse, a choisi comme évangile d'aujourd'hui Saint Jean-Baptiste, qui baptise dans le Jourdain. Le baptême que donnait Saint Jean-Baptiste, attention, n'était pas le sacrement de baptême. Le sacrement de baptême va être institué par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le jour, en fait, de son propre baptême. Le jour où il va se faire baptiser par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain, notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de baptême. Le baptême donné par Saint Jean-Baptiste était un baptême sacramental, pas un sacrement. Sacramental, c'est-à-dire un moyen de purification des âmes pour préparer à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le baptême, justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans le baptême, on voit très bien justement ces deux parties. La partie de pénitence et la partie glorieuse. Vous savez que lorsque le prêtre baptise, il utilise une étole pastorale. Une étole pastorale, l'étole, c'est la longue pièce de tissu que le prêtre utilise au confessionnal, au-dessus du surplis, qu'on met aussi sous la chasuble. Donc l'évêque la porte droite pendant la messe. Le prêtre, le simple prêtre comme moi, nous la portons croisée sous la chasuble. Et le diacre la porte aussi, mais en diagonale sur le côté, sur l'épaule gauche. Et on voit très bien cette même chose dans le baptême. Lorsqu'on arrive à l'église pour baptiser un enfant, le prêtre va demander, que demandez-vous ? La foi. Que vous procure la foi ? La vie éternelle. Il met à ce moment-là l'étoile violette, symbole de pénitence, symbole de la voie purgative, de la voie de purification. Et après les exorcismes, après les différentes parties du baptême, toujours avec l'étole de pénitence, l'étole violette, il va demander aux parrains qui vont répondre pour l'enfant, renoncez-vous. Il dit, renoncez-vous à Satan, renoncez-vous à ses pompes, renoncez-vous à ses œuvres. Et le parrain répond, nous y renonçons. Puis il va changer de couleur, il va prendre l'étole blanche, il va retourner l'étole violette pour la mettre du côté blanc, et à ce moment-là, il y a profession de foi. Croyez-vous en notre Seigneur Jésus-Christ ? Croyez-vous en l'Église catholique ? Croyez-vous au Saint-Esprit ? Et nous répondons, et le parrain répond, nous croyons. Et on voit très bien qu'avant de dire je crois, je demande le baptême, il faut renoncer. Renoncer au monde, renoncer au péché, renoncer à ses pompes, renoncer aux pompes du démon, renoncer à ses œuvres. Et c'est ça le problème. C'est qu'on veut bien la deuxième partie, mais on oublie la première partie. On veut bien se retrouver auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la gloire de Pâques, dans la gloire de la résurrection, et on oublie la première partie. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ invite ses apôtres à venir prendre un bon dîner chez Simon le pharisien, ou à Cana de Galilée, tout le monde est d'accord. Lorsque les apôtres ont été invités au mariage de Cana en Galilée, et que notre Seigneur Jésus-Christ va changer l'eau en vin, tout le monde est d'accord pour venir. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, quelques jours plus tard, demande aux fidèles de venir l'aider à porter la croix, il n'y a plus personne. Donc il ne faut pas oublier les deux choses, mes bien chers frères. Attention à ça, n'oublions pas que nous devons, avant de pouvoir participer à la gloire de Pâques, nous devons participer aux douleurs de la rédemption par la croix. Et ça, c'est absolument, absolument fondamental à comprendre. Si je refuse de renoncer à l'esprit du monde, si je refuse de renoncer au péché, si je refuse de renoncer aux concupiscences, à toutes ces attaques, comment puis-je me présenter après devant notre Seigneur Jésus-Christ à la porte du paradis pour prétendre rentrer dans le paradis ? C'est pas possible. Et donc, il faut accepter ce renoncement. La vie de catholique, c'est une vie de renoncement, mes bien chers frères. Et en ce temps, juste avant la fête de Noël, il faut penser à ça. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de renoncer. L'Évangile nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait même pas une pierre pour poser sa tête pendant la nuit. Et il va naître comme le dernier des esclaves, dans une grotte, avec pratiquement rien. Et on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ va nous montrer justement cet esprit de pénitence. À tel point que lorsqu'il va mourir sur la croix, après des souffrances épouvantables pendant la Passion, les apôtres ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien parce qu'ils croyaient que notre Seigneur Jésus-Christ est venu simplement pour rétablir le royaume d'Israël et qu'il a amené la joie et la paix dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient notre Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié comme le dernier des esclaves et qui meurt comme le dernier des derniers. Ils ne comprennent plus rien. La seule qui avait conservé la foi dans ce cas-là, c'est qui ? La Sainte Vierge. Les autres n'avaient rien compris. Et nous, c'est pareil, mes bien chers frères. On est un peu comme les apôtres. Nous aussi, on veut bien aller au paradis à condition d'y aller en carrosse, d'y aller en tapis roulant. C'est pas possible. On ne peut pas prétendre participer aux joies de Pâques sans participer aux douleurs de la Passion. Celui qui veut venir après moi, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui se renonce et qui me suive. Et on retrouve le même terme qu'on va trouver dans le baptême, qu'il se renoncer surtout à sa volonté propre. Et ça, c'est fondamental. Surtout pour les gens mariés ou les gens qui se marient. En ce moment, je fais beaucoup de préparation au mariage et bon Dieu permet que beaucoup de gens qui entendent parler de la maison me contactent pour demander à faire des rectifications de mariage, des gens qui vivent dans le péché, qui demandent maintenant beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit, qui demandent maintenant pouvoir régulariser leur situation. Qui viennent me voir en me disant, monsieur l'abbé, il faudrait baptiser des enfants, puis il faudrait aussi baptiser la maman qui n'est pas baptisée, puis il faudrait nous marier. Et on le fait, on prépare les gens. Et attention, il faut bien comprendre ces choses-là. Le catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix. Alors les gens me disent, monsieur l'abbé, ça va être magnifique, je vais devenir catholique, alors tout va être facile. Non, les choses ne seront pas faciles. Parce qu'on ne va pas au ciel, encore une fois, on ne va pas au ciel sans porter la croix. Le catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix. Et ça, il faut vraiment méditer ces choses-là. Et en ce temps d'avance, deuxième, on est à quelques kilomètres de la grotte de Bethléem, on est tout proche, eh bien il faut penser en quoi notre Seigneur Jésus-Christ me demande de me renoncer. Vous voyez, c'est quand même triste parfois quand on parle avec des enfants, même parfois dans les familles catholiques. Et il me dit, monsieur l'abbé, c'est bientôt la fête de Noël. Il dit, ah bon, c'est quoi la fête de Noël? Ah, monsieur l'abbé, c'est les cadeaux. Je dis, vous avez raison, c'est les cadeaux. Les cadeaux que vous devez donner à l'enfant Jésus. Qu'est-ce que vous avez prévu comme cadeau pour l'enfant Jésus? Il me regarde avec des yeux ronds, et puis ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien, ils disent, mais monsieur l'abbé, c'est moi qui reçois les cadeaux. Non, ce n'est pas vous qui recevez les cadeaux. C'est vous qui devez donner quelque chose à notre Seigneur. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de moi? Non pas, qu'est-ce que je veux donner à notre Seigneur? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Aux enfants, j'explique toujours avec une petite histoire. J'utilise aussi pour les retraites. Je vais expliquer pour les enfants qui sont là, puis pour les grands-enfants que nous sommes tous. C'est l'histoire avec les bergers. Les bergers, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sont avertis par un ange. Notre Seigneur Jésus-Christ est né. Le Fils de Dieu, le Fils de David est là. Il faut y aller. Alors il se lève et il suit les anges pour aller adorer à la crèche. Et qu'est-ce qu'ils prennent avec eux? Mais ils prennent avec eux quelque chose, on ne va pas arriver les mains vides devant notre Seigneur Jésus-Christ quand même. Donc ils amènent quelque chose, ils prennent quelque chose avec eux, on ne sait pas ce qu'ils ont pris. Ils ont pris peut-être un petit agneau, peut-être un peu de lait, un peu de pain, de fromage, ce qu'ils avaient sous la main. Et ces trois bergers, ils avaient un enfant, qui avait 6 ans. Et cet enfant, mon histoire, il s'appelle Jeannot. Mais on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Quand j'expliquais l'histoire aux États-Unis, c'était Jimmy. Au pays langue espagnole, c'est du Pedrito. Mais en français, c'est Jeannot. Et Jeannot, il voudrait bien offrir quelque chose, et il n'a rien. Alors il dit à sa maman, mais moi aussi je voudrais amener quelque chose, mais j'ai rien. Alors la maman lui dit, mais c'est pas grave, je vais te donner un bout de fromage, tu vas offrir le bout de fromage à la Sainte Vierge, pour Saint-Joseph, notre Sainte Vierge à Marie et l'enfant Jésus. Puis l'enfant réfléchit, il dit, mais c'est embêtant, parce que j'ai quelque chose à donner. Mais ça, je ne veux pas le donner. Il avait un petit chien, tout petit. J'ai oublié le nom du chien. Et il s'est dit, je vais donner mon petit chien, j'aimerais bien pouvoir donner mon petit chien à l'enfant Jésus, mais je l'aime bien mon chien. Alors il marche avec ses parents pour aller à la grotte et le chien suit derrière. Il arrive à la grotte et puis il se met à genoux devant la Sainte Vierge. Puis il lui offre le petit chien en disant, voilà, je vous offre mon petit chien, c'est pour l'enfant Jésus. La Sainte Vierge Marie, qui n'est pas folle, a bien vu les larmes sur les joues de l'enfant. Alors elle lui dit, Jeannot, mon fils, il est très très content de ce don que vous lui faites. Parce que je sais que votre petit chien vous étiez énormément. Mais vous savez, mon fils, je crois qu'il est encore un peu petit pour jouer avec un petit chien, parce qu'il a quelques jours, ou là quelques heures. Alors revenez dans quelques années, et à ce moment-là, il prendra votre chien, mais pas maintenant. Vous pouvez le garder. Il est tout content, il peut prendre son chien. C'est notre histoire. Ce qu'il faut, c'est présenter au bon Dieu quelque chose. Même si le bon Dieu ne le veut pas maintenant, parce que ce n'est pas encore le moment. J'ai connu des gens comme ça, qui voulaient faire des... qui étaient prêts à faire des grands sacrifices. Puis le bon Dieu ne leur demandait pas ce sacrifice, il leur demandait autre chose. Vous voyez ? Et ça, c'est fondamental à comprendre. Avoir cette volonté de renoncer à ce que le bon Dieu nous demande de renoncer. Alors, il faut chercher pendant ces derniers jours, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, sur quel point notre Seigneur Jésus-Christ souhaite que je me renonce. En général, ça dépend de notre tempérament. Un colérique, ou un sanguin, ou un mélancolique, ou un phlegmatique, ils ne doivent pas offrir la même chose. Si vous êtes colérique, bon, il faut certainement travailler sur la patience. Si vous êtes un sanguin, il faut en général travailler sur le mensonge, c'est le problème. Si vous êtes un phlegmatique, un mélancolique, bon, il faut travailler à ce moment-là sur les bouderies. Si vous êtes un phlegmatique, il faut travailler sur la paresse. Donc il faut se demander, il faut vraiment demander à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Que me demandez-vous de faire? C'est fondamental de comprendre ces choses-là. Le catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix. Combien de fois, quand je prépare les gens au mariage, je suis obligé de leur expliquer ces choses. Ils sont amoureux fous l'un de l'autre, ils sont tout contents de vouloir se marier. Je dis, monsieur l'abbé, c'est magnifique qu'on va se marier. Je dis, oui, c'est magnifique. Attention, vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Pour la bonne santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, peut-être pas oublié. Mais monsieur l'abbé, non, parce qu'on s'aime beaucoup. Vous voyez, bon courage. Et voilà ce que c'est que la vie mariée. Enfin, vous êtes marié, le jeu, ça n'existe plus, hein. C'est nous. Ça veut dire qu'il faut mettre sa volonté propre dans la poche, le mouchoir par-dessus, et puis, bien souvent, oublier ce qu'on veut faire, parce qu'il faut partager, il faut penser à l'autre avant de penser à soi-même. Et c'est pas facile tous les jours, si vous ne croyez pas demander aux gens mariés qui sont là, qui m'écoutent, ou qui m'écoutent sur Internet. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pareil pour nous, prêtres. Nous, prêtres, nous avons aussi à nous renoncer constamment. Et Dieu sait si la vie du prêtre, c'est une vie de renoncement. On prépare des tas de choses, et puis le bon Dieu décide d'autres choses. Et donc il faut vraiment avoir cette volonté de dire au bon Dieu, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, c'est la fête de Noël qui arrive, vous venez vous donner à moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Et si vous mettez à genoux devant le bon Dieu qui arrive, devant le Saint-Sacrement qui est dans la chapelle, le bon Dieu va vous dire, voilà ce que je veux, voilà ce que je souhaite. C'est pas toujours très facile. Et la seule façon d'être heureux dans la foi catholique, dans la vie d'un chrétien, c'est de dire au bon Dieu tous les matins, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Tous les matins, il faut le dire, mon Dieu, je vous offre tout ce que je vais faire aujourd'hui. Mes prières, mes joies, mes œuvres, mes souffrances, et même mes péchés. On ne pense jamais offrir ça au bon Dieu. Rappelez-vous cette histoire avec Saint Jérôme, notre Seigneur Jésus-Christ qui lui apparaît le jour de Noël, et qui lui demande comme cadeau de Noël ses péchés. Donne-moi tes péchés que je puisse les repardonner. C'est bien la dernière chose qu'on pensait offrir au bon Dieu. C'est pourtant ce qu'il demande. Donc le matin, il faut dire au bon Dieu, d'avoir dit au bon Dieu, mon Dieu, je vous offre toutes les misères d'aujourd'hui. Les misères physiques, les misères psychologiques, les misères morales. Je vous offre même mes pauvres péchés parce que même le juste pêche 7 fois par jour. Alors moi, je ne suis pas un juste, donc je risque de pécher même plus que 7 fois par jour. Alors je vous offre tout ça par avance. Ça ne veut pas dire que le bon Dieu va se réjouir des péchés, mais il se réjouit du fait que nous savons offrir nos péchés. C'est saint Augustin qui disait « L'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux. » L'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux devant le ministère du prêtre, devant le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, le ministre de notre Seigneur, et dire « Que votre volonté soit faite. Pardonnez-moi mes péchés parce que je suis un pauvre pécheur. » Et dès que le bon Dieu voit que au pied de la crèche, nous sommes capables de venir nous offrir avec toutes nos misères, à ce moment-là, il pardonne. Le mystère de Noël, c'est le mystère du pardon des péchés. Le pardon des péchés commence déjà la fête de Noël. Bien sûr, il va se compléter. On commence par tout offrir et notre Seigneur Jésus-Christ va effacer tous ses péchés par sa mort sur la croix, le vendredi saint. Encore une fois, on ne peut pas séparer ces deux choses. Alors passons, mes bien chers frères, passons par notre Sainte Vierge Marie. Elle a bien compris ces choses-là. Elle n'a pas tout compris. Il y a des choses qui sont quand même étonnantes. Hein. Quand à 12 ans, notre Seigneur Jésus-Christ reste à Jérusalem sans prévenir ses parents, vu qu'humainement parlant, c'est un peu difficile à comprendre. Et qu'est-ce que dit l'Évangile ? Maria, autem conservabat omnia verba ec in corde suo. La très sainte Vierge Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Et elle se rappelait ce que lui avait dit le vieillard Siméon. Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et quand elle était au pied de la croix, qu'elle s'est vue toute seule au pied de la croix, et puis les apôtres s'étaient tous sauvés comme des lapins, sauf Saint Jean. Encore Saint Jean était là parce que la très sainte Vierge Marie l'avait attrapé par la... par la main pour l'obliger à être là, qui est quand même au moins un apôtre qui soit là. Et quand elle a reçu son fils mort au pied de la croix, rappelez-vous cette piéta, il y a une piéta ici sous l'autel, et elle reçoit son fils mort sur la croix. À ce moment-là, elle s'est rappelée certainement la parole de Saint Siméon, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et c'est là où elle a commencé à comprendre. Et c'est là où elle est, à ce moment-là, par son acceptation, qu'elle est devenue co-rédemptrice du genre humain. Eh bien, le bon Dieu nous demande de faire la même chose. Nous aussi, à notre petit niveau, il faut dire au bon Dieu, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, que votre volonté soit faite, même si moi, je ne comprends pas cette volonté divine, même si je ne suis pas d'accord avec cette volonté divine, il faut suivre. Ce serait trop facile pour nous de demander au bon Dieu tout ce qu'on veut et que le bon Dieu nous accorde à longueur de journée tout ce qu'on demande. Imaginez un peu la pagaille dans le monde. Eh bien non, le bon Dieu nous demande, nous offre la croix. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le cadeau de Noël de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix. Donc avec la croix, il nous offre la Sainte Vierge. C'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui disait, une expression un peu directe, la Sainte Vierge c'est la confiture des croix. C'est un peu vrai. Donc c'est comme une tranche de pain sec qui est un peu difficile à avaler, alors la Sainte Vierge met un peu de confiture sur la tranche de pain sec pour qu'on la mange plus facilement. Et c'est ça qu'il faut faire, mes bien chers frères. Passer par la très Sainte Vierge Marie, si j'ai pas grand chose à offrir au bon Dieu, mais passons par elle. N'oublions pas que c'est elle qui est à la porte, à l'entrée de la grotte, et c'est elle qui va nous introduire auprès de son divin Fils. Et si on passe par elle, comme notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas séparer ce qui est uni à lui, comme ça sa mère est là, si le cadeau est offert par l'intermédiaire de sa mère, il accepte tout. Alors ne nous décourageons pas, mes bien chers frères. Utilisons ces derniers jours avant la fête de Noël pour nous préparer. Préparer, ouvrir la porte de notre âme et dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite, même si je ne l'aime pas, même si je ne la comprends pas. Aidez-moi à aimer votre mère le plus possible pour que un jour nous puissions tous nous retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.